Des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, comment allez-vous en ce mois de janvier 2016? Nous sommes le mercredi 13 janvier et comme toujours, j'ai plein de livres à vous proposer et plein de beaux invités à vous faire entendre qui eux aussi ont très envie de vous partager des livres qu'ils ont littéralement dévorés. Alors aujourd'hui, je vais m'entretenir d'abord par téléphone avec l'amie Suzanne Vida qui s'est attaquée à un très très gros morceau et elle avait très très hâte de venir nous en parler. En seconde partie, je vais aussi m'entretenir avec Gérard Saint-Denis qui va nous faire une chronique papale aujourd'hui. Tous les livres dans lesquels il sera question de pape. Alors il est allé chercher ça parmi la longue liste des livres audio adaptés pour vous gratuitement. Hein, vous le savez, il faut toujours que je vous le rappelle via le service québécois du livre adapté par la BANQ. Et puis, je reçois la scintillante, la pétillante, la merveilleuse et magnifique Suzanne Champagne.
Merci, Clotilde.
Ben, merci à vous d'avoir accepté cette invitation-là.
Oh, je suis ravie d'être ici.
Bonjour, une autre Suzanne d'ailleurs, c'est vrai, j'ai deux Suzanne à l'émission. Suzanne Vida est avec nous. Comment allez-vous, Suzanne?
Ça va très bien, merci.
Bonjour et à vous et surtout bravo parce que vous vous êtes attaquée à un gros morceau, mais avec beaucoup de bonheur. Mais je vais vous laisser nous présenter tout ça.
D'accord, donc il s'agit des origines de l'espèce par Charles Darwin. Oui, c'est un très gros morceau.
Rien de moins.
Rien de moins. J'ai choisi de lire le livre. En fait, j'avais déjà lu le livre en partie quand j'étais aux études. Il y avait toujours certaines pages, à telle page qu'on devait lire, mais j'avais jamais lu le livre en entier. Et cette année, j'ai décidé de me lancer un défi, de lire des livres qui ont été, par le passé ou toujours encore aujourd'hui, censurés. Et ce livre-là, en fait, j'ai trouvé à un moment donné, il a été enlevé du Librorum Prohibitorum, qui est un index qui n'est plus publié aujourd'hui. Mais c'était justement un index où venaient tous les livres censurés. Donc, on y trouve Candide de Voltaire, la Bible, le Torah, le Coran, etc. Et on a trouvé aussi Charles Darwin à un moment donné. C'était un livre qui était assez controversé et c'est un livre qui n'était pas très bien reçu par l'Église. L'Église catholique, parce que justement, maintenant, on parlait des origines des espèces, incluant les êtres humains, le monde naturel, qui était contraire à ce que la Bible disait. Et Charles Darwin lui-même, quand j'ai lu l'introduction du livre, lui-même, il a eu beaucoup de difficultés à prendre la décision de publier un livre sur toutes ses recherches qu'il avait fait à Patagonie, Tierra de Fuego, avec toutes ses recherches qu'il a fait même dans son propre laboratoire suite à ses voyages. Mais quand il a vu un manuscrit publié par Wallace, un autre chercheur semblable, là, il a été convaincu que c'était peut-être le temps d'écrire parce que là, il voyait que bon, oh, il y a quelqu'un d'autre qui aussi vient aux mêmes conclusions que moi. Et on connaît tous un peu, si on s'est déjà attaqué à des lectures sur le monde naturel, on a déjà entendu parler de la sélection naturelle. Je veux pas trop embarquer là-dessus parce que c'est tellement bien expliqué par Darwin. Je ne veux pas lui enlever tous les détails dans une courte entrevue de 5 minutes. Mais je dirais que les premiers 4 chapitres de ce livre-là, parce que c'est un très long livre, et s'il y a des auditeurs qui ne veulent pas faire toute la lecture du livre, moi, par contre, je le suggère fortement, les 4 premiers chapitres sont absolument fascinants. Oui, parce qu'il parle un petit peu justement des difficultés avec les différentes définitions de d'abord l'espèce ou les espèces. Ensuite, il parle des difficultés aussi de certains termes utilisés comme variation. Il avait demandé à un moment donné à quelqu'un dans son entourage qui est un horticulturiste de faire une liste de toutes les espèces des plantes qui se trouvent dans sa localité. Et il avait demandé à un autre de faire la même chose. Et chacun avait une liste dont c'était les mêmes plantes, mais il y en a qui disaient, bon, tout ça, c'est des espèces. L'autre, il disait, c'était tous des variations. Mm-hmm. Et donc, dans ses recherches, justement, il confrontait ces difficultés-là. Mais le processus de sélection naturelle, ce qui me fascine dans tout ça, c'est que il parle, c'est certain, que les espèces qui ne sont pas, qui sont plus faibles et moins bonnes à s'adapter à son environnement, ils sont moins performantes à la reproduction. Mm-hmm. Et que ceux qui sont les plus forts, qui ont une facilité à l'adaptation à son environnement, mais c'est certain qu'ils vont reproduire. Et dans les espèces, les nouvelles générations, ils héritent justement les traits, les caractéristiques des précédents, et l'évolution continue comme ça, mais il y a toujours des changements au fur et à mesure que chaque génération d'espèces se révèle, se développe. L'intéressant dans tout ça, c'est que quand il parle des variations, c'est-à-dire chaque individu a des caractéristiques spécifiques à lui ou à elle, et que ce sont des caractéristiques héritables, il parle que les caractéristiques sont spontanées. Moi, je trouve ça intéressant parce que il y a aucune notion de génétique dans ses œuvres. Et quand j'ai terminé le livre, je me disais, après que j'ai lu toutes ces histoires d'espèces, de variations, comment ces espèces-là confrontent à la lutte pour la vie, comment ils survivent, comment ils se développent et comment ils s'adaptent et se modifient au fur et à mesure avec le temps. Jamais qu'il a parlé de la génétique qu'on connaît aujourd'hui, parce que c'était pas un concept qui existait à cette époque-là dans les concepts de ses recherches. Et je me demande, Darwin, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui sur tout ce qu'on est en train de même faire à la planète?
Oui.
Et quand on parle de la sélection naturelle, qu'est-ce qu'il dirait de notre propre interférence avec justement ce grand processus, par la modification génétique, la contraception, etc. Donc moi, c'était une question que j'ai trouvée non répondue.
Oui.
Mais c'est un livre qui se lit très très bien. C'est très vulgarisé. C'est pas un livre qu'on va trouver difficile à suivre.
Ah non?
Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que c'est un vocabulaire très simple. Les concepts sont très bien expliqués. Ils donnent des exemples justement sur ces différentes recherches, différentes espèces, comment ils réagissent dans le sauvage, en liberté, comment ils ont changé ou modifié physiquement quand ils vivaient en captivité dans ces laboratoires de recherche. C'était magnifique.
Mais il y a eu plusieurs éditions. Est-ce que vous savez, vous, quelle édition vous avez lue, Suzanne?
Oh, mon Dieu,
non.
Bonne question.
Non, je ne sais pas, non, remarquez. Non, je veux, parce que je sais qu'il y a par exemple, dans la première publication en 1859, ce sont les infos que j'ai trouvées, il semblerait que le niveau d'écriture, la pureté d'écriture, était assez incroyable.
Oui, j'imagine que oui.
C'est ça, hein. Mais est-ce que vous dites la même chose, vous? Est-ce que vous avez trouvé que le niveau de langage était...
Le niveau de langage, j'ai trouvé ça quand même... C'est certain que les phrases sont... Parfois, il y a des tournures de phrases qui sont très longues.
Oui, oui.
Et il faut bien suivre, mais ça n'enlève pas... pas la compréhension de ses de ses propos.
Okay.
Qu'il faut faire attention, justement, pour ça je disais que le premier chapitre, il explique
les
termes qui s'y retrouvent tout au long du livre, s'explique très bien.
Mm-hmm.
Donc, si on fait un petit glossaire à côté, juste pour bien pouvoir suivre suite au chapitre 1, c'est certain qu'on suit bien. C'est un livre quand même agréable à lire. Moi, je ne pensais pas que ce serait un livre...
qui vous plairait autant, qui vous séduirait autant. Ah oui, vous pensiez que ce serait plus compliqué que ça?
Oui, absolument. Je pensais, oui, absolument que ce serait beaucoup. Parce que, vu le pas, c'est un livre style scientifique. Hein?
Oui, bien sûr.
C'est pas un roman.
Ah ben non, c'est ça. On n'est pas dans Guillaume Musso, là. Hein?
Non, c'est ça. Si on n'est pas chercheur ou si on n'a pas une formation en médecine ou en science quelconque, ben c'est certain qu'on a peut-être un petit peu peur de prendre le livre et s'attaquer à son contenu, mais non, c'était agréablement...
Bon.
Oui.
Suzanne, je vais malheureusement manquer de temps pour vous demander, mais quand même, en quelques secondes, vous devez avoir un bagage scientifique pour vous être intéressée au départ à Charles Darwin et à l'origine des espèces.
Ben, je pense que j'ai plus un bagage de lecture et quand j'ai déjà lu des livres sur le monde naturel, on fait toujours référence à Charles Darwin et sa théorie
De l'évolution.
Oui, de l'évolution. Mmh. Et donc, je pense que c'est ça, oui.
Eh bien, écoutez, Suzanne, je suis convaincue que vous avez peut-être donné le goût à des gens d'ouvrir ou de réouvrir ce livre de Charles Darwin, qui fait partie des grands classiques scientifiques de l'humanité, l'origine de l'espèce, les origines de l'espèce. Et merci beaucoup d'être venu nous en parler à l'émission.
Merci à vous.
On se retrouve bientôt.
Bientôt, oui.
D'accord,
merci.
Suzanne. Bonne fin de journée, au revoir.
Merci.
Et d'une Suzanne à une autre, et oui. Pourquoi pas, de Suzanne Vida à Suzanne Champagne.
Oui.
Suzanne, ça faisait une éternité qu'on ne s'était pas vu, puis vous étiez sur ma guest list depuis très longtemps, parce que parfois je me dis, quels sont les gens, parce que souvent, c'est sûr, j'invite des auteurs, tout ça, mais il y a des fois où j'invite simplement des gens... je leur dis, avez-vous envie de venir nous parler d'un livre? Et c'est donc ce que j'ai fait avec vous. D'abord, bonjour et comment allez-vous?
Bonjour, très très bien, merci.
Bon, vous avez eu un hiver chargé encore une fois avec avec le théâtre, avec la revue, voilà. Et puis, êtes-vous une grande lectrice?
Non, je ne peux pas dire que je suis une grande lectrice.
Non.
Je suis une lectrice par à-coup, si on peut dire.
OK.
Et même des fois, la lecture me manque. Alors là, il y a comme un sentiment de culpabilité. Puis là,
c'est vrai?
Oh oui, vraiment, ça va jusque-là. Même que, mais je lis quand même, là, ce livre-là, je l'ai dévoré. Je dévore un livre ou bien non, j'en commence un, non, je le laisse. J'en commence un autre. J'ai un drôle de rapport avec la lecture.
Oui.
Mais je ne peux pas dire que je suis une grande lectrice. J'ai des amis qui, elles, sont des grandes lectrices.
Ah oui,
alors c'est pour ça que je fais la différence entre une vraie grande lectrice, qui n'est pas moi, et moi.
Mais vous savez, abandonner un livre, c'est peut-être pas signe qu'on n'est pas une grande lectrice.
Tout à fait, ça c'est sûr.
Hein? On s'entend qu'à un moment donné, on va pas se forcer à manger des asperges quand on n'aime pas ça.
En plus, le rapport au livre, ça marche beaucoup avec le timing, si vous me permettez.
Ça, c'est vrai.
Il y a des livres que j'ai lus plus tard, trois ans après, je l'avais laissé traîner. Puis là, j'ai fait, mais c'est extraordinaire. Parce que c'était le moment où je découvre comment il était extraordinaire.
Alors, Suzanne Champagne, ce livre dont vous nous parlez aujourd'hui, allez nous présenter vous-même...
Avec plaisir.
Vous l'avez trouvé vraiment extraordinaire. Oui.
J'ai partagé la vie de ce personnage principal. Enfin, son bout de vie qu'il veut bien nous
dévoiler,
raconter.
Hein?
Voilà, oui. À Haruki Murakami. Mm-hmm. J'ai découvert cet auteur-là il y a plusieurs années quand une amie de Gaspésie, Linda, qui est partie d'ailleurs, partie dans l'autre monde, mais Linda m'avait parlé de Murakami, c'était l'oiseau à ressort.
OK.
Ah, j'avais trippé.
Ah oui.
Oui. Et puis là, une autre amie à moi, Paul, m'a prêté son Haruki Murakami, au sud de la frontière, à l'ouest du soleil. Ça, c'est le titre.
Déjà, quel titre! C'est tellement magnifique. Mais c'est vrai que ça se dit bien.
Ouais,
au sud de la frontière, à l'ouest du soleil, il me semble que ça... C'est fait pour être dit.
Alors, Agine, oui, Agine, ah oui, c'est le personnage, en fait, je pourrais dire le jeu de l'auteur.
Oui, oui.
Lui, c'est pas une crise existentielle, mais il y a un passage que je vous lirai tantôt, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et il dit souvent, je pense qu'on l'attrape à 28 ans.
Oui.
Non, il parle de ses 12 ans, c'est vrai, son ami d'enfance qu'il aimait beaucoup. Ça y est, j'ai oublié son prénom.
Elle s'appelle Shimamoto-san, remarquez, c'est pas facile.
Shimamoto-san.
Voilà.
Et lui, c'est Agine, n'est-ce pas?
H-A-J-I-M-E.
Alors lui, il repense à elle qu'il n'a pas revue, bien sûr. Sa vie avance. Et là, il a 28 ans et finalement, il rencontre... Il nous parle de ses... On vit le temps présent avec lui, alors que tout à coup, il y a 12 ans, on est dans son temps présent de 12 ans. Après, il y a 28 ans, après 30. Et il regrette sa tendre enfance ou, disons, sa jeunesse, où il était lui-même. Et là, il a l'impression qu'il se perd. Et je trouve ça extraordinaire. Parce que des fois, on a des intentions de sincérité, puis on se fait croire toutes sortes de choses. Puis moi, lire ça de... Oh, puis en plus, il nous dévoile, on est intime avec lui, là.
Ah oui, hein?
Ah oui, puis c'est beau. Tu sais, c'est rare que j'ai lu l'écriture d'un homme qui parle de son désir. Et c'est jamais déplacé son désir physique, là, je veux dire, libidinal. Puis c'est tellement beau, là, son rapport avec les femmes. Et puis même, à un moment donné, il va même dire qu'il ne dira pas dans ces mots-là, là, excusez-moi de le récupérer, mais c'est comme s'il avouait son côté macho à un moment donné. Tu sais, macho dans le sens où il n'a pas été très... très ouvert à comment l'autre personne en l'occurrence
il a manqué
femme,
un peu de délicatesse
mais sans nommer les personnages ou qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'on le suit tout on est avec lui et il nous dit pas tout. C'est comme un ami. C'est comme un ami qui peut pas tout révéler parce qu'il faut prendre le temps de développer notre amitié. J'avais l'impression de rencontrer avec celui-là et l'autre aussi d'ailleurs, l'oiseau à ressort, j'ai compris. Et c'est le même. J'ai retrouvé lui, Murakami. L'autre, dans l'oiseau le ressort, il s'enferme dans le fond d'un puits. Oh, c'est extraordinaire, mais c'est le souvenir merveilleux que j'en ai. Et puis, il y avait une voisine aussi qui aimait beaucoup. Là-dedans aussi, encore, il y a une voisine. Il se souvient d'elle quand ils étaient petits. Et puis, il va la retrouver. À un moment donné, il va l'imaginer. En tout cas, il est comme obsédé, il veut la retrouver parce qu'avec elle, il était totalement lui-même.
Lui-même, je comprends. Ouais.
C'est vrai qu'il y a des gens avec qui on est totalement nous-mêmes.
Oui, c'est vrai. Et d'autres pas, d'ailleurs. Et on ignore pourquoi.
Oui, puis on s'en veut.
On
se dit, comment ça que je ne suis pas toujours moi-même?
Exactement.
C'est pas si facile que d'être toujours soi-même.
Oui, puis on trouve rarement dans la littérature cet aspect-là de l'être humain révélé comme ça.
Voilà.
Oui, absolument. Et alors, on dit aussi, parce que moi, malheureusement, je n'ai pas encore pu le lire, mais que... Il y a des petites touches inoubliables, comme des images inoubliables.
Oui.
Et là, vous allez certainement vous en souvenir. Mais par exemple, il y a un lecteur, j'ai lu la critique, pas la critique, mais l'avis d'un lecteur qui dit quand, à 12 ans, ils se tiennent la main, donc en parlant de sa petite voisine, 10 secondes qui demeureront inoubliables.
Tout à fait.
Lui, plus tard, quand il fait fondre de la neige dans sa bouche pour lui donner à boire. J'adore cette image. Cette image est tellement belle. Et alors, cet homme aussi, donc, qui dit que le récit est émaillé de scènes très chaudes avec quelques femmes. Mais par contre, lui dit qu'à un moment donné, il a un petit peu décroché, mais qu'à la fin, il a été complètement happé. Mais on ne dira surtout pas la fin.
Ouais.
Il y a un élément important dans ce livre-là, c'est le jazz, la musique.
Tout à fait. C'est fantastique.
Pourquoi? Parce que lui-même, est-ce qu'il aime le jazz?
Il aime le jazz.
Il aime le jazz.
Il aime beaucoup le jazz. Et d'ailleurs, avec son ami Sa Mamoto-san.
Elle-même.
Ils écoutaient des disques. Puis là, c'était des disques, là, des 33
tonnes.
Des vinyles. Et puis...
Et je voudrais vous proposer quelque chose, Suzanne, parce que on va l'avouer à nos auditeurs. Vous aviez choisi un extrait de votre côté.
Oui.
Et j'avais choisi un extrait de mon côté.
Oui.
C'est quand même un livre, bon, il n'est pas énorme, enfin, il y a quoi? Il y a quand même au moins 200 pages.
Oui, 200 quelques
pages. On a choisi exactement le même.
C'est incroyable. Hein?
Je vous jure que c'est vrai.
On avait des frissons.
Oui, absolument. Et je voudrais vous lire ceci aussi, qui est une petite suggestion d'un lecteur.
D'accord.
Qui dit, procurez-vous en même temps que le livre, l'excellent CD de jazz Voyage de la chanteuse coréenne Yoon Suna, sur lequel elle interprète entre autres Calypso Blues de Nat King Cole. Et il dit, lors des nombreux passages qui se déroulent dans le club de jazz, mettez en fond sonore la voix sublime de Yoon, un moment de lecture de pur bonheur. Alors ce que je vous propose, c'est de lire le petit extrait, puis à un moment donné, je vais faire rentrer tout doucement la voix de Madame Yoon Suna pour que vous puissiez en écouter un extrait. Ça vous va?
Avec plaisir.
Alors on y va.
D'accord. En écoutant cette mélodie belle et légère, je me rappelais toujours cette période de ma vie. On ne peut pas dire que j'étais très heureux alors. Pourtant, le souvenir de cette époque m'emplissait de nostalgie. J'étais plus jeune, plus affamé, plus solitaire que maintenant. Mais j'étais vraiment moi-même. À cette époque, je ressentais en profondeur chaque note de la musique que j'écoutais, chaque ligne des livres que je lisais, comme si elle pénétrait intimement en moi. Me pocket full of empty, I got Calypso Blues. These Yankee girls give me big scare. His black deer root is blonde hair. Her eyelash falls, her face is pained, and pats somewhere the girl she is.
J'ai tellement aimé ça. Écoutez, ça dure 8 minutes. Hein.
Wow.
Alors, au départ, elle commence juste par faire les... Alors, elle se les enregistre sur deux mesures.
Ah.
Et ensuite, elle appuie. Alors là, la machine part. Et ensuite, elle va faire... c'est grandiose. Ça finit. Il faut entendre ça. Ça dure 8 minutes. C'est... Oh. En plus, cette fille qui est absolument... qui est tout en délicatesse. Vraiment, c'est une petite porcelaine de l'avoir manipulé tout ça et surtout de manipuler cette voix. Elle a une voix sur je ne sais pas combien d'octaves.
Ouais.
Elle descend dans les graves comme elle veut, elle monte dans les aigus où elle veut. C'est remarquable. Alors, je remercie beaucoup ce lecteur.
Oui, moi aussi, hein? Merci beaucoup.
Alors, je voudrais... D'abord, on va y aller dans l'ordre. On va répéter, on va rappeler le titre de ce livre,
avec
s'il
plaisir.
Vous plaît.
Alors, c'est de Haruki Murakami.
D'accord.
Haruki Murakami.
C'est ça. Comme ça se prononce, hein.
Ah, oui,
Non, mais c'est vrai,
M-U-R-A-K-A-M-I.
Murakami. Voilà, c'est ça.
Murakami. Au sud de la frontière, à l'ouest du soleil.
Et vous avez remarqué que notre amie Suzanne a eu la très bonne idée. Non, vous n'avez pas remarqué. Vous avez remarqué qu'elle a une excellente lecture. Eh bien, je peux vous dire qu'elle a décidé de venir faire de la lecture chez vous et moi.
Et
ça, c'est très beau de vous entendre, Suzanne.
Merci.
C'est beau. Mm. Et dites-moi, quelle est votre actualité en ce moment? Parce que, bon, on sait que la revue, c'est du passé, mais ça reviendra à la fin de l'année. En tout cas, je vous le souhaite.
Hein? Oui, on verra bien.
On verra bien.
Là, je m'en remets.
Ah oui, hein?
Oui.
Oui, parce que c'est de l'ouvrage, comme on dit. Hein?
C'est tonique.
C'est tonique.
Et il faut être en forme. Et puis, c'est... mais une fois que ça roule, là, ouais. c'est un grand bonheur.
Vous faites combien de personnages? Vous avez fait combien
Cette
de personnages?
Cette fois-ci, j'en ai fait 11.
11 personnages.
J'en ai déjà fait plus, j'en ai déjà fait moins, ça dépend. Ouais.
Et là, il nous a manqué la belle Pauline.
Oui, je n'ai pas fait Pauline. Au revoir, Pauline.
Au revoir, Pauline. Mais, non, oui, c'est ça. Au revoir, exactement. Pauline. Au revoir, Pauline. Et l'actualité de Suzanne Champagne
cette
année?
Eh bien là,
je vais
me préparer. Je n'ai pas encore mes dates, mais ça s'en vient. Je vais tourner.
Oui.
Je tourne à Vrac Télé dans une émission MED, M comme maman, ED, mm-hmm. pour un diminutif de Mehdi. Alors, c'est un jeune homme qui est aussi humoriste, Mehdi quelque chose. Excusez-moi, okay. je suis désolée.
Mais non, bah, puis remarquez, je vous prends par surprise aussi.
Mais je joue sa grand-mère. Mais okay. c'est complètement disjoncté. Ça vient de... ça vient de l'idée originale est une série en France, oui. mais c'est des capsules okay. de ce jeune homme-là avec ses deux meilleurs amis. Alors, ce jeune homme-là a un papa, une maman, une petite mm-hmm. sœur. Et tout à coup, la grand-mère est arrivée en saison 2, qui était l'année passée. Et puis, la grand-mère, elle est vraiment... C'est un beau personnage!
Bon, ben, tant mieux, Suzanne. Oui. Et puis, il y a aussi un homme dont je voudrais évoquer le nom, c'est Christian Bobin, parce que c'est un auteur aussi que vous aimez particulièrement, pour qui vous avez beaucoup d'affection. Beaucoup. Malheureusement, on n'a pas énormément de livres disponibles au SQLA de M.
Mais
Bobin.
Mais vous en avez des Christian Bobin?
On en a quelques-uns, bien sûr, mais malheureusement, pas ressuscité, par exemple.
Oh,
mais je me suis dit, c'est pas grave, parlons-en
non,
quand
pas
même.
Grave.
Parce que je pense que ce qui est important, c'est Bobin.
Oui, c'est Bobin, c'est lui. C'est cet homme-là qui dit d'ailleurs dans une page que dont j'ai plié le petit coin. Bon, premièrement, c'est un auteur, un écrivain. C'est surtout un écrivain qui est extraordinaire, qui écrit beaucoup, beaucoup des petits bouquins comme ça. C'est comme la poésie du quotidien. C'est comme s'il voyait de la lumière. Vous le connaissez?
Ah oui, absolument.
Alors, si vous n'avez pas ici ressuscité ce livre que j'ai dans les mains en ce moment, vous avez peut-être Autoportrait au radiateur.
Oui, ça, je pense qu'on l'a.
La part manquante.
La part manquante aussi.
La folle allure.
Qui est sur maman. Bon, en tout cas, c'est
la
ça.
Folle
oui,
allure,
on a.
C'est
on a mais de toute façon, Bobin, vous êtes d'accord avec moi, on l'ouvre à peu près n'importe où.
Oui, voilà!
Et alors là, vous l'avez ouvert, justement.
Ben, je l'ai ouvert parce que...
Il nous reste une toute petite minute.
L'homme dont on parle quand on parle de mes livres n'existe pas. Mmh. Et puis, il y a une autre chose aussi extraordinaire. J'espère que je vais tomber dessus rapidement.
Oui.
Oh, attendez, ça s'en vient. Bon, non.
C'est pas grave, parce que ça va nous laisser avec une patte en l'air et du coup, tout le monde va se ruer sur Christian Bobin. Allez chercher du
voilà
Bobin.
Voilà ici. Donc, il dit que l'intelligence sans bonté, et c'est comme une robe de soie extraordinaire portée par un cadavre. Quelque chose comme ça, là.
Ces mots. Bravo, Suzanne. Je vous embrasse, je vous remercie d'être venue, Suzanne
Merci,
Champagne.
Claudie.
Vous revenez quand vous voulez, vous savez où on est.
À demain.
À bientôt.
À demain. Au revoir.
Au revoir. Des livres pleins les oreilles, la suite. Bonjour Gérard.
Bonjour chère dame.
Comment allons-nous?
Mais je vais vous dire une affaire, pour des vieux, les fêtes c'est fatigant.
Oui!
Vous autres, vous savez, il ne faut plus déranger nos habitudes.
Ah!
Non mais, on a des choses, des belles choses, il y a des bonnes émissions.
Ben bon, oui.
C'est agréable, on rencontre des gens qu'on ne voit pas souvent.
Ben oui,
mais
exactement.
Ça fatigue pareil, mais c'est normal.
Ben oui, mais ça fait du bien. Et puis voilà. Mon petit Gérard, chronique papale?
Ben, j'ai pensé qu'on pourrait, à cette période-là des fêtes, penser à nos papes, parce que les papes ont joué quand même un rôle très important, particulièrement jusque dans les années 60. Mm-hmm. Et aujourd'hui, de la forme indirectement, d'une autre façon. Je vous offre quelques trouvailles que j'ai eues à Alenka. On a ces papes qui ont fait l'histoire de la Révolution aller jusqu'à Benoît XVI. C'est M. Tink, T-I-N-C-K, Q, pardon,
oui.
Henri Tink, et on trouve ça à l'Inca. C'est assez intéressant parce qu'on passe du pape de Pie VII en 1800, on va jusqu'à Jean-Paul II, oui. en 2005.
Okay.
Et on passe à un pape aussi important qui est Léon XIII. Parce que Léon XIII, lui, il a fait une encyclopédie, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Rerum Novarum.
Oui, oui, oui.
Ça, c'était la base de toute l'action sociale, la révolution sociale. Rerum Novarum, ça veut dire des choses nouvelles. Et
oui.
c'était quand même une révolution pour ce temps-là.
Oui.
Et ça a établi un peu la doctrine sociale qui a joué un grand rôle là-dedans, dans l'Église catholique.
Mm-hmm.
Et ça fait. Mais c'est facile à lire. C'est léger. C'est pas fatiguant.
C'est ça. Ce sont vraiment une suite de portraits de papes.
Oui, oui.
Quoi. Voilà,
ça nous donne l'heure juste depuis 200 dernières années,
mm-hmm.
quels étaient les papes.
Là. D'accord.
C'était une espèce de on va là-dessus. Après ça, j'en ai pris deux. Un François, un pape pour tous.
Oui.
J'ai poussé ça chez AVH.
Oui.
C'est Gaulmin, Gaulmyn.
Oui.
Et Isabelle.
Mm-hmm.
C'est un essai sur la réforme que veut faire François, le pape François.
Oui.
Elle, l'auteur, elle est assez bien branchée avec le monde des jésuites.
OK. Et on sait qu'il est jésuite lui-même.
Oui, c'est ça. Mm-hmm. Et c'est intéressant de ce côté-là. C'est très, très
okay.
intéressant. Et c'est facile aussi. Il n'y a pas de complexité. Ces livres-là ne sont pas fatigants à lire.
Non.
C'est-à-dire, on peut les prendre sans gros problème.
Mm-hmm.
L'autre, c'est encore à l'AVH, c'est l'Église que j'espère. C'est un entretien avec le père Spadamo.
Spadaro, c'est ça. Spadaro, oui.
Ça. Avec le pape François. Là, on découvre un peu qu'est-ce qu'il pense. Parce qu'il parle beaucoup.
Oui.
Il parle beaucoup, mais il parle le fun, il parle intelligemment, il parle...
Oui.
Il sait ses limites, où il peut aller, etc. Mais c'est intéressant. C'est un peu comme une conversation qui se ferait un peu dans votre salon.
Ah oui.
Moi, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant.
Et on touche à tous les sujets, hein, comme je ne sais pas, l'homosexualité, tout ça, le divorce.
Les problèmes des prêtres avec les pédophiles. On touche aussi les problèmes de la pauvreté,
oui.
les problèmes des problèmes qu'on a au niveau de... Tu sais, tous les problèmes qu'on peut avoir parce que on est attaqué tout à coup
oui.
par des gens qu'on prétend qu'ils sont très méchants, les Arabes, mais tu sais, je veux dire, c'est des individus, c'est pas une communauté,
c'est sûr.
c'est pas une religion.
Mm-hmm.
Que,
mm-hmm.
Ça, il réfléchit sur ça. L'autre, j'ai pris aussi, c'est le bon pape Jean XXIII. Vous vous dire pourquoi je l'ai pris? Parce que moi, en 60, je l'ai vu, j'étais à la messe de Pâques à Rome.
Ah oui!
En 60. Et j'avais un contact, c'est Mgr Cabana, moi j'étais à l'Université de Sherbrooke, c'est Mgr Cabana qui était directeur, m'avait dit, vous allez être là pour la messe, je vais vous donner de ce passé, vous allez voir telle religieuse. Et j'étais, en fait, dans le cœur à 25 pieds du pape pendant toute la grande cérémonie. Ce gros pape-là qui se promenait dans sa chaise, que le monde transportait, qui riait tout le temps, etc. Le bon pape
Jean XXIII.
Ah, il était merveilleux.
Mm.
J'ai bien aimé ça. Ça m'avait bien impressionné.
Bon.
Et, c'était, tu sais, t'as 20 quelques années, t'as 22 ans, là, puis tu regardes, tu écoutes ça, puis tu dis, ouais. Et, tu sais, 110 000 personnes sur la place, on les voyait, là. Là-dessus, j'en ai vu au moins 32 qui sont tombés sans connaissance.
Ah oui?
Ah ben, oui,
à ce point-là?
Ça tombait comme des mouches. Mais il y avait du monde pour les ramasser, ça allait bien.
Du monde, il faisait le même effet que Tino Rossi, quoi.
Oui. Et après, je vais vous dire une chose, après, c'était quand ce monde-là sort à midi, à 11h30, là,
mm-hmm.
et là, il faut aller manger.
Oui.
Et parce que j'avais un passeport du Canada, il y a une petite boutique de ce restaurant, la femme m'a fait signe de passer par à l'arrière. Le Canada, pour la guerre, nous avait aidé, ben, elle m'a fait manger dans sa cuisine.
Oh!
Ça merveilleux.
Oh, c'est formidable.
Je vous laisse avec le dernier, le choix
oui.
du Gérard. Et là, c'est Bernard Lecomte. Bernard Lecomte, c'est un écrivain, mais je dirais, c'est un bonhomme qui fouille. C'est un détective.
Ah oui?
Ah oui, c'était, ben, c'était les secrets du Vatican. Il a fouillé pendant des années. Il était là, il a des contacts partout.
Oui.
Et il dit des choses, puis il dit des choses qu'il ne dit pas. Et donc, les gens, ils font confiance. Et il nous fait des trouvailles fantastiques. Il nous parle de ce qui se passe. Et c'est quand même l'institution la plus importante et la plus secrète qu'on a dans le monde, le Vatican. Et toutes les histoires depuis 12 avec les Priests, etc.
Face au nazisme, et, tout ça, oui.
Mais il va chercher de très bonnes informations et il n'est pas moralisateur. Il fait juste nous dire, écoutez, c'est ça qui est arrivé, c'est ça qu'on pense qui est arrivé.
Mm-hmm.
À vous en dire, ben, faites votre pied vous-autres même.
Oui, c'est ça, exactement.
Ouais. Mais ce sont des livres qui sont faciles, qui sont légers dans un certain sens, là, dans le bon sens du mot, et qu'on peut lire à cette période-là de l'année.
Bon, eh bien, écoutez, alors on retient toutes ces propositions-là. Vous savez que j'ai appris récemment par Karl Marchand, qui a participé aussi à cette émission. Karl Marchand est quelqu'un qui a vécu aux côtés de l'abbé Gravel ces huit derniers mois. Okay. Et il nous racontait à ce micro que Jean-Paul II portait un cilice.
Ah bon?
C'est incroyable, hein?
Assez fort.
Moi, alors ça, je n'en revenais pas. Et je me souviens que parfois, le bonhomme avait l'air souffrant. Je ne sais pas si vous vous souvenez vous-même.
Oui.
Et ça faisait peur à tout le monde. Ben, je pense qu'en fait, voilà. Oui, c'était quelqu'un qui s'infligeait la souffrance physique.
C'est fort. C'est les images.
Mais
c'est les images qu'on n'est pas habitué. Et surtout aujourd'hui, avec avec l'évolution de la société. Mais il y a une chose, par exemple, qu'on a aujourd'hui, là, c'est qu'on a un accès, entre nous, on a un accès tellement fantastique.
Ben oui, à tous ces livres-là, bien sûr.
Avant,
mais non.
Qui nous permet quand même d'être mieux connaître ces gens-là.
Alors, mon petit Gérard, comme toujours, c'est un vrai bonheur de vous entendre nous parler de vos trouvailles.
Toute l'année 2016 devrait être bonne.
Toute l'année 2016, on va se voir en plein
santé.
En santé, oui,
et
absolument.
Avec des beaux livres nouveaux qui vont nous arriver. Les auteurs travaillent, madame, je les entends, là, j'entends ça dans leur cerveau, là. Ça grignote partout.
OK, Gérard, je vous embrasse fort.
Et surtout qu'après avoir été au salon du livre, ça grignotait.
Oui. C'est vrai. Hein? Allez, je vous embrasse. Allez, à bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Alors, la bande-annonce de la semaine prochaine. Écoutez, la semaine prochaine, ça va être une émission un petit peu spéciale parce que toute la première demi-heure de l'émission sera consacrée à une compagnie que j'ai invitée à l'émission Des livres pleins les oreilles. Vous allez comprendre pourquoi. C'est une compagnie qui s'appelle Lire à voix haute. Ces gens-là, qui sont au départ des comédiens, se promènent à droite et à gauche et vont proposer leurs spectacles de lecture. Souvent, ce sont des livres québécois qu'ils lisent, Kamouraska, Dan Hébert, ou encore des livres de Michel Tremblay. En tout cas, le choix est quand même assez vaste. Et ils font de la lecture à voix haute, c'est-à-dire, vous le savez, ce n'est pas du théâtre, mais ce n'est pas non plus totalement de la lecture sans âme, c'est vraiment de la lecture à voix haute. Et j'ai eu envie d'aller voir à quoi ça ressemblait. Alors, je suis allée sur le site parce que je me suis dit, voilà, des gens qui feraient sûrement d'excellents invités. Et là, j'ai vu qu'ils sont tellement appréciés. Par exemple, il y a une femme, elle est animatrice en région à CBT TV qui dit « L'excellence des comédiens a réussi à me tirer une larme. Ces lectures de textes apportent une dimension nouvelle au roman, c'est extra », a dit Diane Etier, coordonnatrice de la bibliothèque de Sainte-Marie-Salomé. « J'ai adoré la formule des trois petites nouvelles jouées par les acteurs et le fait que l'auteur était présent. » Il y a Kim Thuy qui a dit à propos d'À Voix Haute, « À Voix Haute m'a fait vivre un moment de bonheur extrême. Merci, merci, merci. » Roxane Bouchard, qui est aussi une auteure, a elle-même déclaré « À Voix Haute est la réunion de théâtre, lieu de rencontre et du livre plus intime, un mélange d'une complète folie qui finit par faire du bien. » Alors, vous comprendrez bien que j'avais vraiment envie d'accueillir ces gens-là parce que j'ai envie auprès de vous qu'on leur fasse un peu de publicité pour que vous sachiez peut-être où vous rendre pour aller les écouter vous-même en direct. Mais au moins, vous pourrez les écouter à l'émission des Livres Plein les Oreilles. Et déjà, j'ai un petit extrait à vous proposer. Je suis allée chercher ça sur YouTube parce qu'ils ont mis eux-mêmes un extrait sur YouTube et ça va vous donner une petite idée de la façon dont ils s'approprient les textes en les lisant à voix haute.
Moi, je te dirais, on retrouve l'aspect du conteur à l'intérieur de ça, le, se faire raconter une histoire, se la faire lire, sans avoir tout le contexte là, des costumes et compagnie, fait que ça laisse place à l'imagination du public.
C'est comme un mi-chemin entre les codes du théâtre, puisqu'il y a une interprétation quand même, certaines parties même qui sont assez théâtrales, puisqu'il y a des dialogues, mais toute la partie narrative, elle, on laisse le spectateur se l'imaginer, puis je pense que c'est ça que le monde aime. Et on n'impose rien. Sans me demander mon avis, il s'est mis à fouiller mes tiroirs, à en tirer des vêtements et à les jeter pêle-mêle sur le lit.
J'ai pas cherché à comprendre, tout ça m'était atrocement égal.
OK, on y va.
Ah, où?
Je sais pas, on part, c'est tout. On verra où plus tard.
Non.
On y va, Jack, c'est pas une question.
Il était d'un calme étonnant. Un monolithe. Mon beau-frère dingue debout comme un monolithe. Comme je bougeais pas, il a poursuivi.
Regarde, franchement, là, t'es vraiment en train de perdre les pédales, OK? Tu t'enfonces dans ta tête, Jack, c'est devenu impossible de te parler depuis deux jours. C'est comme si je m'adressais à un mur, t'entends plus rien, c'est hallucinant. Je sais pas si c'est l'endroit, mais... faut bouger.
Ben, je te retiens pas, Tristan. Retourne-y en ville, jouer au malade mental. Moi, je suis très bien ici. Laisse-moi m'arranger, ça va aller. J'absorbe, c'est tout. Puis en plus, je fais pas de mal à personne. Tu peux comprendre ça?
Ce que je comprends, Jack, c'est que pour une fois, ça te dépasse. Ce que je comprends, merde, c'est que moi, eh ben, je comprends pas mal mieux que toi ce qui t'arrive. OK.
On s'est regardé en chien de faïence. Et tranquillement, j'ai senti que j'allais céder, que l'orgueil craquait comme une digue qui se fissure. OK. On a deux lectures qui s'en viennent dans les prochains mois. La première va se passer à la bibliothèque de Brossard, et c'est le 23 avril.
Et la deuxième, le 9 août, à la Chasse-Galerie de Lavaltrie. Puis je vous invite à aller voir le site Internet d'À Voix Haute. Pour plus d'informations. Oui.
Voilà. Et vous aurez encore plus d'informations la semaine prochaine avec ces comédiens. Au moment où on se parle, je sais qu'ils seront deux ou trois, mais on ne sait pas encore qui viendra. Alors, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas de nom à vous donner. Mais souvenez-vous de celui-ci, la compagnie À Voix Haute, la semaine prochaine à l'émission Des livres plein les oreilles. Ah, une bonne musique et puis un bon livre entre les mains. C'est la chronique sur ma table de chevet. Et sur ma table de chevet, pendant les vacances, il y a eu un polar. Et je vous avouerai que depuis quelque temps, moi, les polars et moi, on était fâchés. Je ne sais pas pourquoi j'arrivais pas à tenir entre les mains un polar. Il me tombait des mains. Ça ne m'intéressait pas, je ne sais pas. Mais alors là, je me suis fait avoir, mais alors, avec un plaisir incroyable, par « Temps glaciaire » de Fred Vargas. Oui, très très connu, Fred Vargas. « Temps glaciaire » donc, qui nous amène dans une histoire assez abracadabrante, qui commence sur une île d'Islande, prise dans le brouillard. Et puis ensuite, on fait la connaissance avec une incroyable société secrète qui voue un culte insensé à Robespierre. D'abord un petit extrait, tiens, je vous lis. Je me suis permis de choisir pour vous la tenue exacte que portait Robespierre hier soir. Habit rayé de deux teintes de brun doré sur ton, ton sur ton, blanc crème du jabot de dentelle plate, blanc brillant de la perruque, cercle des lunettes et bien sûr, visage poudré et livide. Adamsberg montra le second dessin à ses adjoints avant de le passer au président. Les trois hommes s'étaient raidis et Adamsberg laissa tomber sans le vouloir sa cendre sur le parquet. Visage dénué de cette carnation rose qui est la vôtre à l'état naturel, ajouta-t-il. C'était dit et c'était fait. Et Adamsberg se leva pour marcher un instant, étirant discrètement ses bras vers le bas. C'est lui, dit Danglars à voix basse, tandis que Werenck, saisi, se contentait de fixer le portrait. Lui qui ? Demanda doucement Adamsberg. Lui. Maximilien Robespierre, mort décapité en 1794. Alors voilà, parce que cette secte secrète se réunit à l'occasion et rejoue toutes les grandes scènes de la Révolution française avec entre autres les grands acteurs de la Révolution, Danton et Robespierre, dont on peut écouter tous les discours joués par des gens d'une petite ville française. Mais là, je vous propose justement quelques mots de Robespierre. Au début, c'est pas lui qu'on entend. Vous allez tout de suite comprendre quand c'est lui qu'on va entendre.
Puis-je avoir la parole, citoyen président ?
Citoyen, t'écoute.
Une commission pour examiner la carrière et l'intégrité du citoyen Danton.
Oui, oui !
C'est une idée intéressante. Une idée à laquelle je suis personnellement favorable. On a dit que ni l'Angleterre ni l'Autriche ne sont les véritables ennemis de cette République. On a dit que le pire de nos ennemis est Danton. On a dit que le citoyen Danton souhaite uniquement détruire la République et rétablir à sa place une monarchie avec lui-même comme régent. C'est un terrible crime, si cela est vrai. Et Danton en est accusé. Mais si vous accusez Danton, citoyen, Danton qui a servi cette République mieux que quiconque parmi nous, alors je vous dis que vous devez m'accuser moi aussi.
Non, non, non.
Et je vous dis que ces accusations sont aussi fausses et frauduleuses que les menteurs et les hypocrites qui les formulent. Et moi, Robespierre, je les dénonce et je les condamne.
Vive Robespierre !
Imaginez, hein, une société secrète en France, mais de nos jours, en 2015, complètement fanatique de la Révolution française et qui rejoue toutes ces grandes scènes comme ça, toutes ces grandes rencontres entre tous ces gens pro-révolutionnaires, mais au sein desquels, bah oui, parfois il y avait... On n'était pas tout à coup, on n'était pas du même, on était du même bord, mais pas forcément du même avis sur tout. Alors voilà, c'était un des discours célèbres de Monsieur Robespierre. Que serait cette émission des livres pleins les oreilles sans quelques titres en rafale? Alors d'abord, j'ai envie de vous parler de ce livre de Nicolas Dickner. J'ai manqué de temps la semaine dernière pour l'évoquer, « Les six degrés de liberté ». Le résumé où l'on raconte l'histoire d'une jeune fille qui désire repousser les limites de l'expérience humaine, d'un hacker qui veut optimiser la circulation mondiale des bananes et des coussins, d'une employée de la GRC qui rêve d'en finir une bonne fois pour toutes avec la géographie, d'un septuagénaire qui perd un boulon, d'une acheteuse compulsive bipolaire, de six perruches et d'un chat intermittent, tous unis dans un jeu de société à l'échelle planétaire dont personne ne connaît les règles. Ça, c'est l'histoire. Un avis de lecteur un très bon roman que j'ai lu rapidement. Des personnages sympathiques, vaguement antisociaux. Eric, agoraphobe. Lisa, adolescente solitaire. Jay, une criminelle qui purge une peine de prison en travaillant au service informatique de la GRC. C'est pas vraiment un polar, c'est pas vraiment un thriller. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de cadavre. Mais il y a une enquête sur la disparition mystérieuse d'un conteneur. La recherche d'une certaine liberté avec des actions étonnantes. Il semblerait, dit un autre lecteur, que c'est un très très beau roman. Non, je ne vous dirai pas ça parce que je pense que ça ne correspond absolument pas. Mais alors, absolument pas. Si, si, c'est ça. Ah ben oui, c'est un beau roman sur l'amitié, nous dit-on. Excusez-la, elle s'était un petit peu fourvoyée dans ses pages. Un beau roman sur l'amitié que ses 6 degrés de liberté. C'est très bien écrit. C'est un style simple et efficace, avec une petite pointe d'humour aussi qui fait du bien. Un roman dévoré, très bon pour le moral, qu'un lecteur nous recommande plutôt 1000 fois qu'une. J'ai entre les mains un livre qui s'appelle « Banquette arrière ». C'est signé Claude Brisebois. On nous dit en quatrième de couverture qu'il s'agit là d'un livre oublié. J'adore ça. Au départ, quand on me dit un livre oublié, un tout simple livre oublié sur la banquette arrière d'un taxi, je trouve ça déjà très sympathique. Alors voilà, c'est l'étrange prétexte à l'élaboration d'un univers empreint de tendresse, d'amour, de jeux de séduction. Un univers dans lequel les intrigues se multiplient au fil du récit. Et autour du personnage de Jeff, étrange et sympathique passeur de livres, il y a Claude Brisebois, qui dans une écriture souple et lumineuse construit une fascinante réflexion sur les relations humaines et sur l'acte de lire. Alors il fallait que je vous en parle à tout prix. Alors on y rencontre la gracile Soledad, danseuse étoile, Madeleine aussi, pimpante et fonceuse petite bretonne. Il y a Marie, la raffinée aux mille talents, David, l'étriqué et éternel célibataire sans talent pour la séduction, et bien d'autres personnages qui partagent un intérêt commun. Le plaisir de lire. Claude Brisebois, il est né à La Chute après une maîtrise en études françaises obtenue à l'Université de Montréal. C'est une elle. Elle est née à La Chute. Elle a entrepris une carrière comme relationniste. Elle a bifurqué vers les communications et l'organisation d'événements avec la création de l'agence Les Majuscules et Banquette arrière est son premier roman. Et je vous parie que ce ne sera pas son dernier. La dérive des jours. Beau livre, très très beau livre. On nous dit ceci en quatrième de couverture. C'est le temps des foins. Le soleil plombe. Le garçon conduit le tracteur. Sur le wagon, le père empile les balles régurgitées par la presse. La mère les rejoint, portant la citerne d'eau et le sac à lunch. Les crachotements du moteur s'interrompent. Les roues glissent dans la boue. L'eau monte. C'est un roman de la catastrophe, mais aussi du défi et de l'espoir. Ce récit qui nous happe dès les premières pages. On est alors emporté par des phrases courtes, incisives, et réellement le lecteur est plongé dans une œuvre aussi puissante que déstabilisante, nous dit-on. En voici d'ailleurs un extrait. Qu'est-ce qu'on fait, pa ? Le père ne répond pas. Il fait le tour de la ramasseuse, enjambe le cardan et l'essieu et disparaît derrière les balles de foin empilées sur le wagon. Il réapparaît quelques secondes plus tard à l'arrière de la plateforme, le bas de son pantalon mouillé jusqu'aux chevilles et l'air furieux. La mère le suit des yeux. « On devrait peut-être retourner à la maison ?» suggère-t-elle. Le père se fâche. « Maudit, il n'y a même pas un nuage dans le ciel. »« C'est pas du ciel que ça vient. C'est d'en dessous. »« Mais il n'y a pas de source ici, ni de puits, ni de nappes souterraines. Il n'y a rien d'autre que de la terre, la maudite terre noire qui devrait être sèche. » Voilà, extrait de « La dérive des jours » de Jonathan Gaudet, G-A-U-D-E-T. Un beau genre de terrorisme, c'est de Patrick Duhon, celui que j'avais reçu pour « Folle alliée ». On nous parle de Martin Dupuis, de la vie qui n'a pas toujours été facile, qui a été intimidé par ses pères à l'adolescence. Alors il cherche depuis l'acceptation dans le regard de l'autre et, parvenu à l'âge adulte, ce Martin Dupuis s'embourbe dans une relation amoureuse malsaine et destructrice jusqu'au jour où un événement majeur va venir bouleverser sa vie. C'est un beau genre de... Un beau genre de terrorisme, c'est le titre, est un roman sur l'amour, la recherche de l'acceptation de soi, ainsi que sur la vie qui fuit beaucoup trop vite. Et je vous rappelle que c'est signé Patrick Dian. Les chemins de ma liberté, de Nathalie Simard. Elle nous dit « Quand j'ai publié Briser le silence, j'ai voulu me libérer d'un énorme fardeau en dénonçant mon agresseur et venir en aide aux victimes d'agressions sexuelles. Grâce à ma fondation, j'ai parcouru le Québec et j'ai rencontré des personnes qui étaient prêtes à prendre la parole et d'autres qui en étaient incapables. Il a fallu beaucoup de force pour soutenir tous ces êtres en souffrance et de la force. J'en ai manqué. Je me suis fait rattraper par mes vieilles blessures. Je n'étais pas assez guérie pour apprivoiser le bonheur. J'ai connu des hauts et des bas jusqu'à toucher le fond du baril. Mais aujourd'hui, dit-elle à 45 ans, je me suis affranchie de mes démons du passé. » Elle est encore fragile, mais c'est tout cela qu'elle raconte dans ce deuxième livre. Nathalie Simard, « Les chemins de ma liberté ». Et puis, un petit Guillaume Musso pour finir, « L'instant présent ». Allez, c'est un livre dont tout le monde a dit que c'était du Musso pur et dur, un livre qui s'inscrit dans la veine, qui fait le succès de Musso depuis une dizaine d'années, le récit d'un personnage ordinaire pris dans les affres du surnaturel. Dans le Figaro, on nous disait que Guillaume Musso persiste et signe et qu'il est bien le maître du suspense. Alors, si vous voulez vous régaler une nouvelle fois d'un livre de Guillaume Musso, je vous présente donc L'instant présent, maintenant disponible en audio adapté. Voilà, merci à vous d'avoir été là. Merci à Jean-Sébastien Laliberté, merci à Gérard Saint-Denis, Suzanne Vida et Suzanne Champagne d'avoir été mes invités. Aujourd'hui, je vous retrouve la semaine prochaine et je vous souhaite d'excellentes lectures. Allez, salut.